Eh bien, il est temps de passer au sujet du jour, le procès de l'explosion de l'usine AZF il y a plus de 15 ans, hein, c'était le 21 septembre 2001 évidemment à Toulouse, mais plus de 15 ans après, eh bien, écoutez, le combat continue et le combat juridique notamment continue et entre les sinistrés, Grande Paroisse qui est propriétaire de l'usine AZF, son directeur, l'ancien directeur de l'usine AZF, Serge Bléchin, et Total, Total qui est la maison mère évidemment, on le sait. Avec nous, Denis Molin, par téléphone.
Bonjour.
Salut Denis, ouais, tu nous entends?
Oui, absolument.
Bon, bienvenue sur Canal Sud. Alors, tu étais déjà présent dans les studios, là, pour le coup, en chair et en os, le 21 septembre, quand on fêtait les 15 ans. On avait fait une grande journée dans les locaux de Canal Sud autour des 15 ans. Et on avait
Absolument.
parlé longuement de cette lutte juridique et du procès à venir, le troisième procès. Donc on en repassera des larges extraits tout à l'heure, mais avec toi on voulait quand même faire un petit point sur où en était le procès actuellement, 2 semaines quasiment jour pour jour après son ouverture à Paris. Alors peut-être redire quand même simplement que le premier procès avait abouti à une relaxe, hein,
Oui.
faute de le jury avait enfin le tribunal avait
Disons qu'on
alors.
n'avait pas trouvé l'étincelle, on avait mis en avant donc les fautes de l'entreprise, mais on n'avait pas voulu, enfin au niveau du président, voir que l'étincelle, elle était dans le tas d'ammonitrate et le mélange des produits.
Oui, c'est ça. Il y avait donc c'était faute d'éléments de preuve. Hein. Au final,
Voilà, au départ.
ils avaient quand même reconnu la responsabilité
Absolument.
de Total, mais relax, faute d'éléments de preuve. Puis second procès où là il y avait eu des condamnations, notamment pour manquement grave. Voilà.
Donc
Et
ils avaient repris à ce moment-là les mêmes manquements et ils étaient arrivés, eux, au fait qu'il y avait un faisceau d'indices qui conduisait à l'explosion du tas d'ammonitrate avec un mélange donc de chlore qui avait été déposé le jour de l'explosion. Et là, ils disaient que c'était dû à des manquements graves dans le fonctionnement de l'usine. Donc, ils mettaient en avant la thèse de l'accident chimique. Et ils ont condamné à ce moment-là, donc Grande Paroisse et son directeur, M. Bichelin.
il y avait aussi également une condamnation, mais alors assez faible, de l'État.
Alors, ça c'est autre chose, ça.
Ah.
Au niveau de l'État, c'est un autre, disons que nous, en tant qu'association, donc deux membres de notre association, dont moi, avons attaqué l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Nous sommes allés donc au tribunal administratif. En première instance, pareil, ça a été rejeté. En appel, on a gagné. Donc l'État a été condamné en appel. Mais le problème, c'est que derrière, il a fait appel. On est parti au Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État a cassé l'appel. Et donc, pour l'instant, et on n'a pas pu aller plus loin. Donc l'État est mis hors de cause.
Donc, Conseil d'État qui annule le
Ouais.
jugement qui condamnait, bon, certes faiblement, mais qui tout de même condamnait l'État,
Ouais,
et
ouais.
mais également en parallèle, annulation également de la condamnation de ce second procès, alors pour une histoire totalement extérieure au procès
Voilà,
lui-même, hein.
pour des problèmes de procédure.
Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui, 15 ans après, avec une explosion sans coupable, hein. C'est un peu la
Pour l'instant, sans
situation
coupable. Voilà, c'est-à-dire
ubuesque.
que depuis 15 ans, on a une explosion et il n'y a toujours pas de coupable, puisque on repart complètement à zéro dans ce deuxième procès en appel.
Alors, donc deuxième procès en appel, mais du coup troisième procès de la catastrophe
Voilà, ça
d'AZF.
va faire un mois, un an quasiment, bout à bout. Quand on mettra les 3 fois 4 mois, on aura un an de procès.
Et donc ce troisième procès a démarré le 24 janvier, hein, je le disais, c'est quasiment il y a 2 semaines, hein, c'était mardi il y a 2 semaines. Alors d'abord, on le rappelle, c'était à Paris, et les associations de victimes, dont la tienne, hein,
Oui,
on rappelle
absolument.
AZF, plus jamais ça, ni ici ni ailleurs, avaient mis en avant que c'était extrêmement difficile pour les parties civiles d'assister au procès, et donc ça posait évidemment des questions sur comment dire, la justice réelle qui puisse être rendue sans les parties civiles ou avec des parties civiles un peu quasi
Et
absentes. Alors du oui.
on a des sinistrés donc et des victimes qui sont sur Toulouse. Et puis on a un procès qui se passe à Paris, et Paris, ben, c'est le siège social de Total. Donc il y a une disproportion et un manque d'égalité flagrant entre donc, les victimes et Total.
Et on voit bien qui est avantagé. Alors, histoire de remédier, si c'est possible, un petit peu à cette situation, il y a quand même des diffusions qui sont organisées, des diffusions du procès en direct, des retransmissions du procès au centre des congrès,
Pierre Baudis, voilà, des congrès Pierre Baudis
à Compense
à
Cafarelli.
Toulouse.
Voilà.
Sauf que ça se passe dans des conditions, c'est-à-dire que la transmission se fait dans des conditions déplorables et que l'on n'entend quasiment rien dans cette salle. Donc là, et ça empêche les parties civiles de suivre les débats, ce qui pose un problème au final juridique, puisque les parties civiles ne peuvent pas monter à Paris.
Et oui, les gens travaillent. Ouais.
Et là, elles ne peuvent pas suivre clairement les débats.
D'accord.
Et même si elles pouvaient le suivre, elles ne pourraient de toute façon pas intervenir.
Absolument. Il n'y a pas d'intervention possible depuis la salle de retransmission.
D'accord. Il y a du monde, du coup, quand même, qui assiste. Toi, tu es allé, Denis,
ça dépend des jours, mais il y a 300-400 personnes qui sont là et qui essayent de suivre les débats qui ont lieu à Paris.
D'accord. Et donc, c'est ouvert aux mêmes horaires que le procès à Paris. On est d'accord, hein, c'est retransmission en direct.
Oui, exactement les mêmes horaires.
Et ouverte à tous et tous, ceux
qui... Mais disons qu'il y a une salle. D'abord, les parties civiles sont prioritaires.
Bien sûr.
Donc, il y a des badges qui ont été distribués pour les parties civiles, puisqu'il y a possibilité de se faire rembourser certains frais. Et ensuite, il y a le public qui peut y assister dans la mesure où il reste des places disponibles. Mais je pense que c'est le cas.
Alors, du coup, on en vient...
Alors, nous, en tant qu'association, on a 11 personnes qui sont parties civiles dans ces trois procès, mais dans celui-ci. Et nous sommes montés aux trois premières audiences à Paris, mais après, bon, on n'a pas la possibilité de passer 4 mois à Paris, quoi.
Bien sûr, oui, chacun a des vies qui sont sur Toulouse. Alors, peut-être, avant que tu nous dises un petit peu où en est le procès, qu'on se fasse un petit bilan d'étape, presque, j'ai envie de dire, nous resituer et nous réexpliquer très rapidement, mais quand même, qu'est-ce que c'est que le collectif ou l'association, pardon, AZF, plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs.
Alors, le nom exact, c'est plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs, Croix de Pierre. En fait, c'est une association qui a pris la suite en 2002 d'un collectif qui avait été créé en septembre 2001, quelques jours après l'explosion. Donc, on fonctionne depuis 2002 en tant qu'association TJC Croix de Pierre. Et donc, pendant 5 ans, on a bataillé pour obtenir la fermeture du site, organiser des débats, des manifestations. On a suivi également la dépollution du site. Et on suit toujours, nous, le site qui est voisin de l'usine AZF, qui est le site Héraclès, qui fabrique qui est un site Seveso au seuil haut également, et qui fabrique le carburant des fusées. Et on participe de toute façon, encore actuellement, à la création d'une coordination nationale des associations riveraines des sites Seveso pour lutter à titre général, puisque c'est un peu un de nos objectifs, contre les risques industriels et technologiques.
Oui, d'où le nom plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs.
Voilà.
Vous précisiez dans un de vos communiqués hein, qu'il y a 7 millions de citoyens en France qui sont exposés aux risques industriels.
Voilà.
C'est effectivement extrêmement important.
Il y a 600 Seveso au seuil haut, donc avec un danger mortel pour tous les voisins de ces sites, quoi.
Alors, on va revenir du coup sur ce procès. Donc, procès ouvert il y a 2 semaines. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on en est du procès? Qu'est-ce qui s'est déjà dit?
Voilà, actuellement, donc, on doit être en train de discuter. Moi, je n'y suis pas allé là hier. Un petit peu du sens de la détonation, de la géologie du cratère, etc. En fait, on repart complètement à zéro et on redéroule exactement ce qui s'est passé en première instance et en premier appel. Donc, en gros, les 3 premiers jours, on a assisté, comme au cours de ces 2 précédents procès, à des gesticulations procédurales des avocats de Total pour égarer le tribunal, fuir toute responsabilité. Et puis ensuite, on a des gesticulations un petit peu sur les causes externes, parce que pour Total, il ne peut pas y avoir de causes internes, puisqu'il n'y a pas d'accident chimique pour eux. Ce ne sont que des causes externes. Donc, ils mettent en avant tout un tas de ce qu'ils avaient mis en avant déjà, c'est-à-dire des choses un petit peu abracabrantesques. Donc, un hélicoptère, des phénomènes précurseurs, l'usine Saïkapak qui avait explosé en 2012 parce qu'il y avait de la nitrocellulose. En fait, toutes les théories les plus farfelues sont mises en avant pour éviter que Total apparaisse comme étant, compte tenu de la façon dont elle gérait cette usine, comme étant responsable de cette catastrophe. Donc c'est l'image de Total qui doit être sauvegardée, sauvée, blanchie, etc. Donc tout est fait pour ça. Et ce qui est un peu gênant, c'est qu'on a, y a une espèce de partage des tâches entre, d'une part, les avocats de Total Grande Paroisse et les avocats de Mémoire et Solidarité, qui est une association donc des anciens salariés d'AZF, qui fonctionne la main dans la main, en fait, et qui sont totalement instrumentalisés par Total. Et ils se répartissent un petit peu les pistes, en mettant en avant toutes les pistes autres que la piste chimique. Donc on va repartir sur la piste de l'attentat, la piste de la nitrocellulose, etc., etc. Donc, tout ça pour essayer de détourner l'attention et faire en sorte que Total reste blanchi.
Alors donc ça, c'était les premiers jours du procès. Ensuite, dans un deuxième temps, j'imagine qu'on est rentré un petit peu, tu dis, hein, tout le procès, bah, il s'agit de tout refaire, hein, ça
Mais
repart à
là,
zéro.
on revient sur un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire là, actuellement, sur le sens de la détonation, la géologie du cratère, etc. Mais donc, on met en place un petit peu les éléments avec des discussions entre experts, savoir si, effectivement, selon la géologie du cratère, l'explosion a eu lieu dans tel sens ou tel autre sens, etc. Mais bon, ça, c'est des discussions entre experts, sachant que les experts, enfin, entre guillemets, hein, les experts de Total, donc, essayent de trouver des pistes qui prouveraient que ben, si explosion il y a eu lieu, si elle n'est pas due à un accident chimique. On est toujours dans la même démarche des avocats de Total, c'est-à-dire pas d'accident chimique, pas de mélange de produits, etc. Donc, voilà. Alors, est-ce que cette analyse de cette géologie du cratère, elle a aussi pour objectif de mettre en avant toutes ces fausses pistes, à savoir s'il n'y aurait pas eu une bombe sous le cratère, est-ce qu'il n'y aurait pas eu... voilà.
Oui.
Donc, disons que on est toujours dans la même démarche, et on va être dans la même démarche pendant 4 mois, c'est-à-dire essayer de casser toute l'instruction judiciaire, montrer que cette instruction, elle a plein de failles, pour... Le même objectif, c'est-à-dire externaliser complètement la cause de la catastrophe, ce n'est pas Total. C'est le seul objectif de ce procès, en fait, pour les avocats de Total.
Bien sûr. Alors, concrètement, là, du coup, oui, tu parlais du cratère. Là, en cette semaine, c'est ça, le procès est rentré vraiment sur la phase de l'enquête et de l'information judiciaire,
voilà,
c'est ça, hein.
Voilà, avec des témoins pour faire apparaître donc qu'il y a eu 3-4 explosions successives, etc., etc., quoi. Les gens ont entendu par ailleurs, de bonne foi peut-être, mais bon, il y a tout un tas d'analyses ensuite qui ont été faites qui montrent qu'il n'y a eu qu'une seule explosion et que c'est lié à d'autres phénomènes, quoi, de son, etc., acoustique, etc.
Toi qui as suivi, toi et les gens de l'association, hein, Plus Jamais Ça, ni ici ni ailleurs, qui avaient suivi les autres procès, tu sens des différences vraiment notables dans les débats, ou tu as l'impression de vivre à chaque fois un peu des copier-coller?
Non, on revit exactement la même chose, les mêmes débats, les mêmes arguments sont avancés par la défense. Non, il n'y a rien de nouveau là. Là, ils insistent actuellement tout doucement sur la piste de la nitrocellulose, cette usine Saïkapa qui a explosé, enfin qui a pris feu en 2012. Ils reviennent sur la piste de l'attentat, etc., quoi. Bon, rien de neuf, en fait.
Rien
parce
de neuf,
que,
ouais.
Parce que ben, il n'y a pas de solution autre que l'accident chimique, quoi. Mais bon.
Alors, fin du procès, donc tu l'as dit, hein, ça va durer 4 mois, donc
ouais,
la
ouais.
fin du procès, ce sera autour de fin avril. Quand est-ce qu'on peut attendre le rendu du jugement?
Bon, à mon avis, guère avant l'automne.
Guère avant l'automne, d'accord. Donc
ouais,
encore plusieurs mois d'attente avant le rendu du jugement.
Non, le problème que l'on a, nous, c'est que ce qui est pour nous complètement inacceptable, c'est que Total soit dans ce type de défense, alors que c'est un des premiers groupes pétrochimiques mondiaux. Ils ont les meilleurs techniciens experts dans tous ces domaines-là de pétrochimie, et qui veulent nous faire croire que 15 ans après, ils sont incapables d'analyser cette catastrophe, de lui trouver le moindre début d'explication. Et ça, pour nous, c'est extrêmement grave, parce que si c'est le cas, c'est de l'incompétence totale. Et alors, ça veut dire que tous les riverains des usines du groupe sont en danger, parce que si 15 ans après, le troisième groupe pétrolier mondial est incapable de savoir ce qui s'est passé dans son usine, on n'imagine pas ce qui peut se passer dans tous leurs autres sites. Donc c'est pour ça que ça ne tient pas la route de leur défense.
Bien sûr. Merci Denis d'être venu un petit peu témoigner là de où en était le procès aujourd'hui. On va te réentendre maintenant, puisque tu étais présent hein, dans l'émission du 21 septembre pour parler justement de cette lutte juridique en cours. Il y avait également Jean-François Grelier, c'est ça?
Voilà. Jean-François Grelier qui est décédé depuis.
Qui est décédé là en décembre, alors qu'il voulait véritablement participer à ce procès. Il faut lui rendre hommage parce que c'est en partie, c'était le combat de sa vie et c'est un combat qu'il a mené jusqu'au dernier jour, et ça, il faut vraiment le remercier.
Et c'est un combat qui n'est pas terminé. On rappelle que
c'est un combat qu'on mène pour lui aussi.
Pour lui et pour les autres victimes, on rappelle, hein,
voilà,
31
absolument.
Morts, 25 000 blessés, 55 000 foyers détruits, plus de 100 bâtiments publics détruits également. La plus grave catastrophe industrielle en France de l'après-guerre, ça incontestablement.
Absolument.
Voilà. Donc on revient, voilà, on voyage dans le temps, on revient le 21 septembre 2016 dans les studios de Canal Sud, débat autour de cette lutte juridique. Merci Denis.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.